Vincent Calais est avocat au barreau de Lille, initiateur du cycle de rencontres 5 leçons sur le lien social aujourd'hui. Sous couvert de liberté, une nouvelle religion planétaire martèle un commandement unanime, ne pensez pas dépenser. Alors une réflexion s'impose, que nous allons tenter un tout petit peu de cerner rapidement. Et moi j'avais envie de lui demander pourquoi vous avez choisi d'inviter le philosophe Dany Robert Dufour, Vincent Calais.
L'intervention de Dany Robert Dufour s'inscrit dans un cycle de 5 conférences, 5 leçons sur le lien social aujourd'hui. Et il me semble que la réflexion de Dany Robert Dufour, dont je ne partage pas toutes les analyses dans son fond, est tout à fait éclairante et provocatrice sur précisément ce qui se passe au niveau du lien social aujourd'hui. De la décomposition, de la transformation des liens sociaux dans l'univers de la marchandisation généralisée. C'est un peu rapide de le formuler dans ces termes-là et sans doute un peu simple, mais sa réflexion est dans ce champ, le champ de ses pensées, qu'elles soient de philosophie, de psychanalyse, de sociologie, de philosophie politique, etc., qui essaye d'articuler les incidences subjectives et sociétales de la généralisation du modèle du marché comme modèle anthropologique universel et omnipotent.
Il m'a semblé voir dans ce livre, en filigrane, quelque chose qui... On aurait pu appeler ce livre finalement « Dieu est mort, vive le marché ».
Oui, c'est autour de ça que tourne sa réflexion. Il a engagé un dialogue avec la thèse de Marcel Gauchet exposée dans Le désenchantement du monde, à savoir, pour Marcel Gauchet, nous vivons aujourd'hui le retrait du discours religieux, c'est-à-dire non pas qu'il n'y aurait plus de religion ou qu'elle serait sans effet, mais que le discours religieux n'est plus aujourd'hui la référence structurante de la subjectivité et du lien social. Et la réflexion de Dany Robert Dufour est un peu différente. Il avance la thèse que aujourd'hui, ce qui remplace Dieu, la référence divine, c'est précisément la structure du marché, le modèle du marché et la généralisation de l'économie, y compris sur le plan psychique.
Oui, c'est ça le plus grave, parce qu'en fait, il nous dit que la liberté que nous avons l'impression de ressentir, chacun d'entre nous, dans la société, n'est qu'illusoire, et que c'est le marché qui nous aliène.
Voilà. Il met en perspective les réflexions de Michel Foucault, Deleuze et Bourdieu, en dénonçant à travers ces trois penseurs, je dirais le mouvement libertaire, libertarien, libéral, enfin comme étant l'inscription dans le registre d'une pensée soi-disant critique, d'un modèle ultra-individualiste de société, qui, au fond, est profondément aliénant sous couvert d'être libérateur. Et le titre de son ouvrage, « Le divin marché », qui est articulé sur les 10 commandements, hein, c'est une manière rhétorique de présenter ses thèses par référence aux 10 commandements bibliques, et il évoque... le marché comme fonctionnant sur un certain nombre d'impératifs, qu'on dirait catégoriques. Par exemple, tu pourras vénérer toutes les idoles de ton choix pourvu que tu adores le Dieu suprême, le marché. Tu combattras tout gouvernement et tu prôneras la bonne gouvernance. Tu offenseras tout maître en position de t'éduquer. Tu ignoreras la grammaire et tu barbariseras le vocabulaire, etc. etc.
Quel programme ! Alors justement, quelles sont les conséquences sociales de la devise du marché qui est donc de jouir sans entrave ? des conséquences sociales graves.
Oui, des conséquences sociales graves. Je crois qu'il faut éviter de se situer dans une alternative simpliste entre le mauvais marché, le méchant marché, et la bonne social-démocratie ou le bon vieux temps. La question n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal. La question est de voir effectivement quels sont les effets que ça produit sur le plan subjectif et intersubjectif de la société. Je pense qu'il faut rapprocher cet ouvrage des réflexions de Charles Mellman et Jean-Pierre Lebrun, « L'homme sans gravité, jouir à tout prix », qui date de 2000, « Jouir sans contrainte », exactement. Et donc c'est comment aujourd'hui la société se trouve organisée par une économie de la jouissance et non pas du désir. C'est-à-dire, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment jouir le plus possible du maximum de choses ou d'autrui et comment faire pour légitimer cette jouissance tous azimuts en déconstruisant, en privant de fondement tout ce qui sert traditionnellement au processus civilisationnel, c'est-à-dire des interdits, des différences, des références symboliques légalisantes, enfin toutes choses qui ne sont pas négatives, mais qui impliquent que de reconnaître la limite et de l'assumer.
Il va même jusqu'à dire que l'homo festivus est dangereux.
Tout à fait. C'est une thèse qui est développée depuis longtemps par un autre essayiste, Philippe Muret. Et ben, je pense qu'on peut le constater dans la France d'aujourd'hui tous les jours. On passe de la Gay Pride à la fête des mères, de la fête des mères à la fête des pères, bientôt la fête de la musique. À la rentrée des classes, on aura la fête des cartables. Ensuite, on aura Halloween. Ensuite, enfin, l'organisation festive permanente qui fonctionne à la fois sur le plan commercial, mercantile.
Bah, c'est d'abord ça, c'est une histoire de business.
Oui, la fête de la musique, ce n'est pas d'abord une histoire de business.
Non, hein. C'est vrai.
Alors, on a une autre ambition. Et donc, à la fois sur le plan commercial et mercantile, et sur le plan sociétal. Hein. On est dans homo festivus, comme dit Philippe Meuret, la fête permanente.
Moi, j'ai trouvé cette qualification excellente. Alors, il y a quelque chose qui fait quand même un peu peur. Il fait référence à Fahrenheit 451, qui a quand même été écrit en 1953 par Ray Bradbury. Il dit que finalement, nous y sommes et qu'aujourd'hui, les livres sont remplacés par la télévision et que c'est la télévision qui nous a servi et qui permet que nous soyons des consommateurs dociles. Ça fait juste froid dans le dos quand on lit ce chapitre.
Oui, enfin l'enjeu c'est d'être lucide. Hein. Il évoque également, à partir de 1984 de George Orwell, hein, qui est de 1948 donc, il a tout un chapitre sur le développement de la novlangue. Mm-hmm. À la fois la décomposition des structures linguistiques, le vocabulaire, la grammaire, etc., et la mise en place d'un discours, d'une pensée unique, comme on dit, qui vise effectivement à organiser une jouissance brute et tous azimuts. Et il a également, Dany Robert Dufour évoque également d'une manière assez critique la position de Bourdieu sur l'école et le fait qu'aujourd'hui, l'école ait perdu sa légitimité à transmettre du savoir. L'exigence d'apprendre, d'acquérir des savoirs, ne va plus de soi. Et aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui en font l'expérience dans leur quotidien professionnel, la relation pédagogique est devenue très problématique, parce que l'enseignant n'est plus justement perçu comme celui qui est détenteur d'un savoir qu'il a à transmettre, et cette transmission de savoir n'est plus par elle-même nécessairement légitime ni évidente.
Alors Denis Robert Dufour va jusqu'à faire de ce commandement, d'ailleurs que vous avez cité tout à l'heure, « Tu offenseras tout maître en position de t'éduquer », il en fait l'origine du déferlement du marché. C'est quand même un peu fort peut-être.
Oui, enfin, je pense qu'il est difficile d'établir des causalités linéaires. Il y a un processus global et globalisant, multiforme, multicausal, et oui, je pense que la crise de l'école et de l'institution scolaire est une des origines ou une des formes, mais sans doute pas la seule.
Il évoque aussi les nouvelles barbaries.
Oui, ça fait écho à les invasions barbares hein, de ce cinéaste canadien. Les nouvelles barbaries, c'est-à-dire précisément le recul du processus civilisationnel, quelle que soit la civilisation, qui est au fond un processus de symbolisation et d'accès au registre symbolique, qui suppose un effort. Hein. Le travail symbolique, que ce soit la musique, la littérature, enfin tout travail, dans la mesure où il comporte une symbolisation, implique un effort, et le discours capitaliste, la vulgate du discours capitaliste, c'est précisément de toujours plus nous dispenser de faire des efforts, et de délégitimer l'effort à accomplir pour... je dirais, se subjectiver et se dire dans une œuvre ou dans un travail.
Et comme il le souligne d'ailleurs, l'art n'est plus subversif depuis longtemps, en tout cas depuis Duchamp.
Tout à fait.
Donc du coup, l'art ne remplit même plus cette fonction.
Voilà, il dénonce ces artistes qui enfoncent la porte ouverte par Duchamp, c'est son expression, et... la viduité, la vacuité de la création picturale aujourd'hui et son caractère à la fois caricatural et profondément nihiliste, je dirais.
Vincent Calais, merci.
Merci.
Et donc, une petite pause avec le quatuor trombonissimo.